C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Accueillons tout de suite Martin McGuire, de retour à la maison, bien content sans aucun doute, après une semaine à l'étranger. Salut Martin.
Salut Mario.
C'était pas parti pour être un point de presse où on allait énormément parler du jeune numéro 20, tu t'en conviendras, mm-hmm. Je pense Martin, oui. Puis jusqu'au oui, moment oui. Où, ben, faut dire que t'avais eu quand même des propos, t'avais eu des échanges avec quelques joueurs qui t'ont amené à poser une question presque en fin de point de presse qui nous a amené à une conversation fort intéressante sur Slafkovský.
Écoute, nos collègues anglophones avaient abordé Slafkovský aussi, juste avant moi, oui. Brièvement. Puis j'ai eu une conversation brève, mais une conversation avec Arber Xhekaj à Saint-Louis le matin du match. Et Mario, Xhekaj est souvent avec Slafkovský. Ce sont deux amis dans l'équipe, ils se tiennent souvent ensemble et tout. Et je lui demandais, j'ai dit, comment il se sent ton chum? Comment il passe à travers ces moments-là? Parce qu'au moment où je lui parle, il n'a pas encore marqué son but là, contre les Blues de Saint-Louis. Puis on ne sait pas s'il va jouer sur le premier trio. Ça arrive le soir, mais le matin, on ne le sait pas. Et Xhekaj me répond, il dit, il se met beaucoup de pression sur les épaules parce que il veut réussir. Il veut répondre aux attentes des gens. C'est le premier choix du Canadien de Montréal. Et il est fier, puis il veut que les gens réalisent qu'il peut répondre à ces attentes qui ont été placées en lui. Alors, c'est un peu ce que j'ai demandé, j'ai posé comme question à Martin Saint-Louis en lui rapportant les propos de son bon ami Xhekaj. Et Martin Saint-Louis nous a sorti un classique, Mario.
Oui.
Puis, mais écoutez bien, au-delà du fait qu'il y a un parallèle puis qu'il y a une bonne image que Martin Saint-Louis fait.
C'est le fond qui est intéressant aussi.
C'est le fond qui est intéressant, puis vous allez comprendre la position du coach, puis peut-être aussi la position de toute l'organisation sur Slafkovský.
C'est pas facile pour un jeune de 19 ans de pas entendre ça, pas être exposé à ça avec tout le média qu'il y a à Montréal. Tu sais, fait que des fois, c'est pas juste. Moi, avec Slaf, là, tu sais, vous autres, vous utilisez Waze, si mettons, tu vas aller à une belle place, là, tu sais, là. Tu mets ton adresse dedans. Elle te dit combien de temps que ça va te prendre, combien de milles. OK? Puis là, mais. Là, tu pognes du trafic. Qu'est-ce qui arrive au temps? Est-ce qu'il monte ou il descend? OK. Est-ce que tu tournes de bord ou tu continues? Tu continues. Puis si tu manques une sortie, t'es en maudit puis tu retournes chez vous ou tu as te fait rerouter puis tu arrives pareil à destination? Non, c'est une question pareille, là. Tu sais, moi, je vis ma vie de même. Puis c'est ça qu'on fait avec Slaf. Slaf, il s'en va d'une belle destination. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre. Puis des fois, il y a du trafic, puis il ne faut pas qu'il se fâche. Il ne faut pas qu'il se décourage. Puis des fois, on va manquer une sortie. Mais on va se replacer. T'sais, on n'a pas toutes les réponses quand il va être exactement où c'est qu'il va être. Mais je sais qu'il s'en va d'une belle place. Fait que c'est dur pour le jeune d'être dans le trafic des fois, puis manquer une sortie. Puis écoutez tout le monde qui parle de tout ça, là, du trafic qui a pogné, puis des sorties qui ont manqué. C'est pas facile pour un homme de 19 ans, fait qu'on essaie de l'aider avec ça.
Oui, c'est pratique à Montréal aussi, parce que le trafic, c'est pas le problème. Par rapport à ça, Martin, en sous-question, à un moment donné, on dit d'un joueur, c'est un joueur offensif, puis s'il peut pas se débarquer sur les deux premiers trios, c'est difficile de le placer ailleurs. L'équipe à Martin Saint-Louis, es-tu fait comme ça? Est-ce que Slaf, s'il ne peut pas tirer son épingle du jeu, ses deux premiers trios, il ne peut pas être ailleurs?
C'est pas vrai, parce que son jeu défensif, sa physicalité, quand il l'amène, il est peut-être très efficace. Mais comme je te dis, la destination qu'on a avec lui, ça va être un joueur de première ligne, deuxième ligne, je ne sais pas encore. C'est pas grave, mais je sais qu'elle va être belle là, où est-ce qu'on s'en va.
Sais-tu ce qui est le fun, Mario? C'est que je vous ai laissé l'audio au complet. J'ai pas triché, j'ai pas coupé là-dedans.
C'est comme ça que ça a sorti, puis c'était bien senti. Tu voyais que Martin oui. parlait avec ses tripes, là.
Oui. Oui, puis c'est clair. T'écoutes ça, là, puis c'est clair. Tu sais exactement où ils veulent aller avec lui. Puis surtout, ce que tu comprends, c'est qu'ils veulent être patients avec lui. Mm-hmm. Ils sont en position de l'être, Mario. Ils ont pas promis aux gens qu'ils feraient les séries cette année. Puis ils ont pas promis aux gens qu'ils feraient les séries l'an prochain aussi, à ce que je sache. Mm-hmm. Alors, ils sont en position pour être patients. Il y avait quelques vieux sages dans le vestiaire du Canadien de Montréal. Ben, pas trop vieux quand même, mais en termes de hockey, ils sont plus vieux un petit peu.
Oui.
Et le premier que je suis allé voir, c'est Jake Allen. Allen a toujours une opinion éclairée sur beaucoup de sujets dans le hockey, chez le Canadien. Et vous allez voir, vous allez entendre dans l'extrait, Allen parle du Slafkovský de l'an passé, celui de cette année, puis ce qu'il dit surtout, c'est qu'il faut pas abandonner. Jake Allen.
Well, I know. Obviously, you want to prove your worth in this league, no question. But at the same time, you know, I've been impressed with Slav's mood this year compared to last year. To be honest, I know it's his first goal. I'm sure it's a lot of weight off his shoulders, and you know, everything comes a little bit easier once you get that first one. But at the same time, his demeanor and his mood and the way he handles himself around the rink, I think, is completely different than last year. So that, for me, is impressive, is a step. And you know, I'll never be able to understand to be in those shoes and never be a number one overall pick. But at the same time, I've been impressed with them. A lot of the other things, you know, besides the score sheet.
Can you compare the pressure between being a number one goalie in this type of market and be a first overall pick?
I don't know. I've never put the player skates on, so it always seems easier than it is to go out there. But, you know, he's 19. He's got a long way to grow. You know, people can't give up on the kid at all. I think you gotta back him till it's in. I see how good of a kid he is, and for me, that gives me a lot of belief that he can. You know, and it might take another year. It might take a couple years. Who knows? He might turn the corner tomorrow. Yeah. Let's hope he does. Yeah. But you know, for me, and we're there for him.
Alors, on va être là pour lui. Ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre deux jours. Il dit, il va tourner le coin. Le potentiel est là. Puis je lui demandais si, tu sais, c'est plus de pression être un gardien numéro un qu'être un premier choix pour le Canadien dans un marché comme celui-là. Ben, il dit, jamais chaussé leur patin. Puis il a dit quelque chose d'important, Mario, dans l'extrait. Il dit, je suis content avec sa façon dont il se comporte à l'extérieur de la patinoire cette année.
Est-ce que tu devines, vois-tu ce que lui dit voir?
Moi, je pense que il devient un homme tranquillement, pas vite.
OK.
Tu sais, la façon de se comporter, la façon de se préparer avant un match, la façon de s'entraîner, Mario, aussi. Tu sais, l'intensité avec laquelle tu t'entraînes, toutes ces petites affaires-là. Toutes ces petites choses-là, comment t'es sérieux par rapport à un match, une pratique, une réunion et tout, comment t'es attentif, c'est toutes des affaires. Écoute, c'est un jeune homme de 18 ans l'année passée, puis là, ben il est dans un environnement qu'il ne connaissait pas, la meilleure ligue de hockey au monde. Et je veux pas présumer, mais je pense que Allen parle de ça. Tu sais, des mineurs, là, la façon de se comporter, l'attitude. Et en tout cas, lui, il trouve qu'il y a une amélioration très importante par rapport à l'an passé. Puis il dit le reste, ben écoute, il dit des fois, t'en marques un, puis après ça, ça déboule, ça se met à fonctionner. L'autre sage qui était dans ce vestiaire-là, Mario, il a vécu presque la même affaire que Slafkovský. Il a été un choix de première ronde des Flames de Calgary. Il s'est retrouvé dans un marché canadien. Beaucoup d'attentes et tout. Et Sean Monahan, en quelque sorte...
Sixième au total, lui, en 2013.
Exactement. Lui pouvait avoir de très bons conseils à offrir à Slafkovský. Puis, c'en est un autre, Mario, qui a pas perdu confiance en Slafkovský, loin de là. Alors, voici ce qu'un ancien premier choix pourrait dire à un premier choix tout frais, là. On va l'écouter.
Yeah, I mean, I talk to Slav, I mean, basically every day, and I think he's a great person, great teammate, and I mean, it's such a hard league, and I mean, it's, you got the pressure on you as the first overall pick, and I mean, I think he's just got to kind of move past that and just play, and I think, to be honest, I don't necessarily really care what other people have to say outside of the dressing room, and that aren't my teammates or coaches or I guess my parents, but social media is the biggest thing. I mean, it's going to be everywhere. I mean, I remember when I was that age and you play a bad game and you go on Twitter or whatever it is and it's everywhere. So, I mean, you just got to try and avoid that. And like I said, put in the work and enjoy being at the rink, enjoy your teammates and learn new stuff every day.
Alors, il a trouvé ça dur à Calgary certains moments. Il nous a même dit que les médias sociaux, il est plus là-dedans. Il s'est tenu loin de ça parce que des fois, ça peut être très difficile. Alors, il dit, imaginez pour un jeune de cet âge-là. Il dit, faut que tu écoutes tes entraîneurs, faut que tu consultes tes coéquipiers, que tu restes un peu dans ta bulle, ta famille. Mais le bruit autour, faut qu'autant que possible, tu laisses ça de côté. C'est ce qu'essentiellement Monahan dit de Slavkovski. Il dit, c'est une bonne personne, c'est un bon coéquipier. Puis un petit peu plus tard, je lui demandais... J'ai dit, on l'a toujours perçu comme un jeune homme qui avait beaucoup confiance en lui. Puis là, au moment de ça, Slavkovski arrivait. Puis il est comme deux, trois casiers plus loin que Monahan. Puis il regarde, puis il me regarde. Il dit, tu l'as-tu regardé, là? Il dit, il mesure 6 pieds et 4, puis il dit, il pèse 230 livres. C'est normal qu'il a confiance en lui. Mais il dit, en même temps, il y a
mais
un
sous le capot, parfois, ça veut pas dire qu'il peut pas être affecté par certains aspects.
C'est ça. Puis c'est ce que
Jake Allen... dans les images automobiles.
oui, puis c'est ce que Jake Allen a dit subtilement. Puis c'est ce que Martin Saint-Louis a dit. Quand il a dit, là, tu sais, lui, il entend tout ça partout, là, puis c'est un jeune de 19 ans, puis il a manqué à la sortie, puis il sait qu'il a manqué à la sortie, mais il entend tout le monde qui en parle. Alors, tu sais, Mario, moi, j'ai trouvé que c'était une journée, comment dirais-je, il y avait de l'éducation à travers les propos du coach et des joueurs pour les partisans qui nous écoutent. Il y a un autre fait aussi, Mario. On parlait de la perte de Dak puis de Savard, puis là, on disait, à un moment donné, ça va faire mal. Là, on est le 6 novembre, là. Là, on s'est aperçu que sur la route, ça faisait mal. Parce que lorsqu'on a les duels entre les trios, puis que l'équipe est sur la route, pas juste pour un match, mais pour deux puis trois matchs, là, on s'aperçoit que c'est peut-être plus facile avec l'adversaire de neutraliser Suzuki, de neutraliser Caulfield, puis de pas avoir ce deuxième punch avec Dak et de pas avoir ce gros défenseur physique aux côtés de Matheson qui prend des minutes. Alors, Jake Allen nous a dit, tout ça, là, ça expose beaucoup de joueurs qui sont plus jeunes puis moins expérimentés.
You know, matchups are key, you know, especially when you're, you know, when you're on the visiting team, you don't get your top matchups, and you know, when other teams can target guys, you lose, you know, a really good set, big centerman like Docker, who's going to play big minutes for us, and you know, a guy like Savvy, who's, you know, irreplaceable really for this group on and off the ice, PK minutes, you know, plays against the other team's top lines and things like that. So those things, obviously they're big losses on paper, but at the same time, like you just said, on road, it's you can get away with it a little bit more at home, but that's something we have to adjust to for the, you know, until Savvy gets back.
Voilà donc pour Jake Allen, tu sais, le fait que tu manques un défenseur qui prend des minutes, le fait que tu manques Kirby Dak, tu sais, ça peut paraître pour certains comme étant des excuses, Mario, mais dans une équipe comme le Canadien, c'est une réalité. Tu sais, on a vu que Newhook avait beaucoup de bonnes intentions, mais c'est pas Kirby Dak. Dvorak est arrivé, il avait pas joué du tout, Mario. Alors c'était impossible que ce gars-là pouvait créer un impact immédiat. Alors c'était encore dans les mains de Monahan et de quelques joueurs de l'équipe. Puis, tu sais, tout le temps qu'on a à faire des rotations à l'aile droite de Caulfield et Suzuki, ben ça affecte peut-être ces deux-là parce que ces deux-là ont peut-être un peu moins de stabilité. Est-ce que ça commence à apparaître? Ben peut-être que ça a apparu lors du dernier voyage, Mario.
Oui, ben certainement. En tout cas, ça a été difficile. Plus la semaine avançait aussi, peut-être que quand on se félicite trop d'avoir perdu un match, que c'était en prolongation au début de semaine, tu sais, des fois, faut faire attention de trop se flatter dans le sens du poil parce que, tu sais, c'est vrai pour tout le monde. Des fois, quand on pense qu'on est rendu bien bon, ben on dégringole. Mais t'as raison que il y a des absences qui se font sentir. On va conclure, Martin. Oui. Il y a beaucoup été question de Josh Anderson aussi.
Oui, je veux juste résumer, Mario. Oui. Lui, il dit, j'ai pas encore changé mes bâtons, j'ai les mêmes gants, mais je tape plus le bâton de la même façon. Mais il a dit une affaire, par contre. Il dit, j'essaie de contribuer à l'équipe, il dit, je sais qu'il faut que je marque. Puis, il dit, je sens que ça s'en vient, j'ai des chances. Il dit, je suis dur avec moi, faites-vous-en pas. Mais il dit, je sais que je peux contribuer autrement avec l'équipe. Puis, Martin Saint-Louis a confiance. Il dit, c'est un gars de 20 buts. Il dit, il a prouvé qu'il était un gars de 20 buts. Alors, le coach pense qu'il va réussir à marquer ses buts.
Ben, très bien, Martin. Merci beaucoup pour tout ça. Et ben, les gens sont bien curieux d'entendre comment Danny analyse le tout. Mon doux Seigneur, j'ai essayé de faire un mot avec deux. Mais tu as bien compris, j'espère, mon cher Martin.
Absolument.
Et on se retrouve demain sur la passerelle.
Bonne soirée, Martin.
Bye. On revient avec Danny.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Nous voilà de retour et aux gens qui me demandent pourquoi autant d'entrevues en anglais à un poste francophone, bien regardez la composition de l'équipe, puis le trois quarts de l'équipe est en anglais, fait que quand on va avoir le pouls d'un vestiaire, ben ça arrive qu'il faut aussi aller interviewer les joueurs anglophones. Alors voilà. Maintenant, bonsoir Danny.
Yes, indeed.
Qu'est-ce que tu veux? Exactement. Puis ils sont pas tout le temps tous disponibles pour les médias. Mais ceci dit, toi, Danny, le sujet numéro un dont tu as envie de nous parler ce soir, est-ce que c'est ce dont on vient de parler par rapport à la réponse de Martin Saint-Louis sur le numéro 20, Josh Anderson, l'équipe en général, où tu as envie de nous amener ce soir?
Ben, écoute, moi, Mario, là, premièrement, dans le cas de Slafkovský, tout ce que je dis, c'est que c'est un dossier où il faut être patient.
Oui.
Il y a pas d'échéance. Les jeunes joueurs, là, il y a pas d'échéance. Puis je l'ai déjà dit, je vais le répéter là. Les gros joueurs, à moins d'être une superstar, parce qu'il y en a là des. Puis je pense pas que Slafkovský dans son année là de repêchage, qu'il était considéré comme une superstar. Je pense pas ça. Je pense que c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème, mais tu sais, les Draisaitl et compagnie, là, Malkin à l'époque, ou
non, il n'y a pas eu le temps parce que ça a été tardif, là, le buzz autour de lui est parti sur le tard, là, dans les derniers mois avant le repêchage, même exactement. Jusque dans les derniers jours, là.
Ben oui, t'as fait raison. Donc, moi, je pense que lui, plus que certains autres de son gabarit qui ont été repêchés très tôt en première ronde, lui, dans son cas, c'est très, très tôt, là, ben, c'est du développement à long terme. Alors, il faut être patient, il faut regarder les choses froidement puis se dire que le jeune est en développement. Est-ce que à Montréal, c'est la bonne place? Mais là, ça appartient aux dirigeants de penser que c'est cette alternative-là qui est la meilleure. Mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur de la Ligue nationale qui y a aucun problème pour moi. Ce qui va devenir dans la Ligue nationale, ça, je sais pas.
Et c'est intéressant que tu dises ça. Bon, c'est sûr que l'autre place est dans le cours du grand club. Fait que c'est Laval. Ouais. C'est sûr qu'il aurait été épié de toute façon parce que le nanan pour avoir fini dernier, c'est lui. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'espoir pour que les espoirs soient légitimes. Le succès du développement de ce jeune homme-là pèse pour beaucoup dans la perception des gens, savoir être Canadien. Vas-tu vraiment être un gros club? Quand tu regardes Draisaitl puis McDavid dans la cave avec les Oilers d'Edmonton, avoir de la, tu sais, puis là, lui, il porte les espoirs de tout un peuple quasiment, là, j'exagère à peine. Alors, c'est sûr qu'il était pied à la loupe, mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il aurait dû jouer là? Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de reculer. Quand Martin Saint-Louis utilise l'image du Waze, là, il pose la question, tourne-tu? On revient-tu? C'est comme ceux autres, ils vont finir ce qu'ils ont commencé avec lui. Ce gars-là jouera jamais match avec le Rocket de Laval.
Non, puis mon intervention...
Comprends-tu la même affaire avec moi? Tu comprends-tu la même affaire que moi par rapport à ça?
Absolument. Puis moi, mon intervention, c'est pas par rapport à ça.
Non, je le sais.
Ils ont fait leur lit. Ça fait longtemps qu'ils ont fait leur lit. Là.
Puis tu le contestes pas, c'est ça qui est ça, j'ai bien compris.
C'est eux autres qui ont décidé d'aller dans cette...
Mais ils le reconsidèrent pas non plus, on dirait. Là.
Non, non. Mais là, honnêtement, il commence à être un peu tard pour le reconsidérer. Là, c'est un gars de l'équipe. Maintenant, les responsabilités qu'on lui donne, à un moment donné, il devra les mériter. Parce que là, il mérite pas les responsabilités qu'on lui donne. Il les reçoit gratuitement. À un moment donné, il va falloir qu'il les mérite. Tu comprends? Il y a une grande différence entre les deux. Mais c'est correct, parce que là, on est en train de prendre un jeune joueur puis de le développer dans la Ligue nationale. Donc, on dit... Il faut absolument que, pour utiliser l'expression de Martin, il faut lui en donner des répétitions. Il faut le placer, l'exposer. Il faut lui faire vivre ce qu'il y a à vivre. Puis lui, il doit le vivre. Puis il doit en avoir des échecs. Si tu deviens pas bon juste à faire des bons coups, tu deviens bon à passer à travers des épreuves, puis vivre des échecs, puis t'améliorer à travers ça. Donc lui, c'est la même chose. Mais c'est des grosses bouchées à Montréal. C'est toujours un peu plus lourd à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Edmonton, à Calgary. Les marchés chauds, c'est toujours plus difficile que, évidemment, si tu joues ailleurs dans la Ligue nationale, les marchés non traditionnels.
Mm-hmm. 7 matchs au cours des 2 prochaines semaines, Danny, et 6 contre des équipes en haut de 500, pour ne pas dire nettement haut de 500, la plupart.
Oui, Ben, écoute, il y a des gros matchs qui s'en viennent pour le Canadien, puis pour les gros matchs, ça va prendre des grosses performances.
Oui,
des bons ça va prendre des bons joueurs. Puis là, tu sais, ce matin, là, ça fait quand même quelques jours que je regarde ça, puis je veux te partager quelque chose.
Vas-y.
L'an passé, Cole avait un pourcentage d'efficacité de 16,5.
Sur ses tirs.
Sur ses tirs. Il a marqué 26 buts en 158 tirs. Ça marche?
D'accord. Nettement au-dessus de la moyenne de l'équipe.
Oh,
en
oui.
termes d'efficacité, évidemment.
Et exactement. Puis quand tu regardes les bons joueurs dans la Ligue nationale, là, c'est là-dedans. Là. Ça tourne là-dedans. Si t'es à 20 %, ça va baisser. Là. T'es chanceux. Mais normalement, c'est autour de 12,
oui, oui.
12, 13, 14, 15 % d'efficacité. Bon. Cette année, là, Cole a marqué 4 buts. Il a tiré 47 fois. OK? C'est 8,5% d'efficacité.
Ah, en bas de son pourcentage habituel ou de ce à quoi il nous habitue dans sa jeune carrière.
Exactement. L'an passé, après 11 matchs, il avait 16,6% d'efficacité. Il avait marqué 7 buts en 42 tirs. Cette année, il a marqué 4 buts en 47 tirs. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'an passé, il avait marqué 6 de ses 7 buts à 5 contre 5. Cette année, le dernier but à 5 contre 5 qu'il a marqué, c'est contre Chicago. Après, il a marqué 2 buts à 3 contre 3 en prolongation, qui sont devenus 2 buts très importants pour l'équipe, 2 buts gagnants, mais à 3 contre 3. Donc, son dernier but à 5 contre 5 remonte au 14 octobre contre Chicago. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va attendre encore longtemps avant de revoir les trios? Parce que l'an passé, ça fonctionnait. Là. L'année passée, 6 buts à 5 contre 5, un seul but en avantage numérique, aucun de ses buts en prolongation. Tu sais, en prolongation, un tireur comme lui, là, il est...
Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Puis à l'œil, ça se voyait, je veux dire, on en a parlé dans les après-matchs, qu'à 5 contre 5, ben là, je sais qu'on cherche encore le troisième larron sur le trio. Il y a des auditions, sûrement que le duo en souffre un peu. Ben, mais là, on se dit, c'est-tu au duo de rendre le troisième meilleur ou c'est au troisième de rendre le duo meilleur? Je pense que c'est un peu des deux. Ça...
Ben là, j'ai des chiffres, moi. Tu sais, moi, j'ai pas nécessairement de réponse, mais je te donne des chiffres. Là. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin. L'an passé, là, regarde, les 50 meilleurs buteurs cette saison, le plus bas, là, c'est 10,9%. C'est Jack Eichel, d'efficacité.
OK.
OK, puis je vous donne une très bonne équipe. Là. Ça veut dire qu'il y a la rondelle au bon endroit au bon moment.
Mm-hmm.
Moi, quand je regarde le pourcentage d'efficacité, ça veut dire que le joueur ne reçoit pas toujours la rondelle au bon moment. Donc, c'est un peu ça, là. Tu dis qui c'est peut-être pas un bon mix. C'est quand je regarde les séquences. Puis les marqueurs, ils fonctionnent par séquence. Donc, c'est peut-être pas juste ça, là. Mais écoute bien ça. À 8,5% d'efficacité, ça va lui prendre plus que 450 tirs pour atteindre les 40 buts. Il est quand même payé comme un marqueur de 40 buts.
C'est beaucoup de lancers, là.
Ben là, l'an passé, le seul joueur dans les meilleurs marqueurs qui a lancé 400 fois dans les attaquants, c'est David Pastrnak. Il a lancé 407 fois.
Hey, c'est
il a marqué 61 buts en 82 matchs pour 15% d'efficacité.
Wow.
Alors moi, tout ce que je dis, c'est qu'à 8,5 d'efficacité, c'est en dessous du talent de Cole. C'est un tireur à 15%. Ça veut dire qu'il faut commencer à regarder comment le trio est composé. Parce que lui, c'est ton pain puis ton beurre. Lui, il faut que ça marche pour lui. Là, les matchs s'en viennent. Là, tu me parles du calendrier. Moi, je dis, bon, OK, bon, ben là, on est là. On dit, ouais, c'est vrai, là, le troisième trio. Non. Il est Slavkovski. Non. Cole. Cole, vas-tu marquer?
Absolument. Il y a une nouvelle donnée dans ses stats quand même. Il y a 7 mentions d'aide. Normalement, il y a plus de buts que de passes.
Mm-hmm.
Là, j'ai pas regardé si c'est 7 mentions d'aide là, survenant en prolongation ou en temps réglementaire, mais...
Non. Il y a les deux matchs en prolongation, c'est lui qui a marqué.
Oui.
Il y a 3 tirs, il y a 2 buts. Fait que c'est sûr que...
Mais il a commencé à faire plus de passes dans l'enclave aussi. C'est pas pour contrer l'argument des buts qui est clairement établi, puis les chiffres l'appuient, mais y a-t-il une autre facette de son jeu, de sa vision qui est en train de développer?
Non, c'est que c'est parce qu'il est plus souvent en périphérie.
OK, OK.
Il est moins en position de tirer, donc
puis il est surveillé, il n'y a pas d'angle pour tirer, fait qu'il n'y a pas le choix de faire des passes.
Exactement. Puis si le troisième gars avec qui tu joues, parce que tu sais, mm-hmm. Nick Suzuki le trouve, là, il le trouve sur la glace, il le voit, il le trouve. Mais si le troisième gars ne complète pas cette espèce de chimie, il n'est pas capable de l'alimenter aux bons endroits, au bon moment, pour toutes sortes de raisons, ben ça va se traduire par un manque d'efficacité. À un moment donné, là, tu sais, moi, je veux dire, je fais juste, c'est mathématique, je fais juste regarder les chiffres.
Bien sûr, t'as raison.
Il dit, ben là, puis après, je regarde les matchs, parce que faut dire aux gens, là, je suis pas arrivé, j'ai pas commencé à regarder les feuilles de stats avant de me poser la question. Je me suis posé la question, comment ça qui ça a l'air difficile. Ah, oh, c'est vrai qu'il est
couvert, au niveau là, du marquage, oui.
Puis là, après ça, j'ai commencé, je dis, ouais, quand même aller voir les chiffres, parce que, mais quoi qui me... Puis là, j'arrive à ça. Fait que l'autre soir, là, à Saint-Louis, là, il y a un tir de l'enclave, il est rentré tardivement. L'arrêt, Hoffer a fait un arrêt extraordinaire avec la mitaine. Il était dans l'enclave. Puis ça a pris un arrêt vraiment A1 du gardien pour empêcher Cole de marquer. Mais ça, c'est pas arrivé souvent dans les derniers matchs.
Fait que la solution, c'est un meilleur complément de trio, Danny?
C'est possiblement ça. Puis c'est aussi de le sensibiliser, lui, à rentrer à l'intérieur pour tirer. Il est peut-être un petit peu trop en périphérie.
Ouais, et on lui donne pas grand place non plus, hein, Danny? Je te dis que
non,
le petit
mais
goal,
comme
là,
tu disais tantôt, il est bon. Fait qu'il faut qu'il en trouve.
Oui. Écoute, c'est ça son défi à lui et à Nick. Hein? Et probablement encore Slaff demain. On verra si on poursuit l'expérience. Je pense que oui.
Ben, je pense que oui.
On se retrouve sur la passerelle, mon Danny. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bye.
Bye, on vient.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Pendant ce temps, dans la Ligue américaine, pas de match avant dimanche prochain pour le Rocket de Laval. Beaucoup d'entraînements en perspective. On a le plaisir de s'entretenir ce soir avec celui qui domine la colonne des pointeurs de l'équipe, nul autre que l'ancien du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy. Bonsoir, Joshua.
Salut, ça va bien?
Ben, ça va très bien. Et toi, comment vis-tu ton début de saison, tes premiers pas dans la Ligue américaine, Joshua? J'étais très curieux de savoir comment tu apprivoisais ce calibre de jeu.
Ouais, ben jusqu'à présent, ça va super bien. Je pense que je me suis bien adapté au jeu. Tu sais, beaucoup de la différence junior puis AHL est vraiment énorme. Tu sais, oui, c'est le cas. Je pense que c'est vraiment le jeu est vraiment différent. Tu sais, les gars, c'est des hommes, puis c'est vraiment plus physique. Puis tu sais, il y a plein de détails dans le game qui changent. Mais je pense que jusqu'à présent, je m'adapte bien, puis je vais essayer de prendre mes aises plus que l'année va avancer. Là.
Selon toi, là, elle se situe où la grosse différence entre le junior et la Ligue américaine?
Beaucoup la vitesse. Tu sais, que ce soit la vitesse des gars, tu sais, tout ça fait plus rapide. Puis la vitesse d'exécution aussi. Tu sais, quand t'as pas que sur la palette, faut t'en donner tout de suite parce que faut que tu saches quoi tu vas faire comme jeu parce que c'est pas comme dans le junior que t'as un peu plus de temps à voir c'est quoi tes options. Tu sais, c'est vraiment, tu l'as, faut que tu bouges, faut que tu fasses ton jeu. Là.
Tu joues contre des hommes aussi, là, veux pas, et donc, comment t'adaptes-tu à l'aspect physique du jeu de la Ligue américaine?
Ouais, ben là-dessus, je trouve que je fais super bien. Tu sais, je suis capable de gagner des ballons pareil, puis c'est certain que t'es beaucoup plus physique. Tu sais, les gars, c'est des hommes, puis ils sont vraiment plus forts physiquement, fait que ça fait différent d'aller un gars qui compte d'aller dans un coin contre un gars de 30 ans que d'un gars de 16 ans comme dans le junior là. Fait que faut tout habituer, mais jusqu'à présent, je trouve que je fais une bonne job là-dessus justement de gagner des ballons.
Un bon vieux conseil, Joshua, là, c'est mort bien serré dans ton protecteur buccal, hein?
Ben c'est ça. Ça va là, puis ça se peut que tu ressortes puis t'as mal, mais l'important c'est de ressortir avec le puck.
Oui, puis il n'y a pas juste les batailles physiques, je pense que tout le monde l'a remarqué. Je regardais encore, j'enregistre les matchs, puis je regardais encore en fin de match l'autre jour, tu sais, tu t'es lancé pour bloquer des lancers. On voit que tu travailles plusieurs aspects de ton jeu pour devenir le hockeyeur le plus complet. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois.
Moi, vraiment, écoute, j'essaie d'avoir une game pro, puis bloquer des shots, ça en fait partie. Fait que c'est tout des petits détails que j'essaie de travailler, puis d'amener à ma game pour qu'un jour, j'ai la meilleure game possible, comme tu as dit. Puis, tu sais, il me reste encore beaucoup de travail, mais je pense que j'ai le bon mindset. Puis, je veux vraiment continuer à mettre l'emphase dessus. C'est certain que je suis un joueur qui fait beaucoup de points normalement. Puis, c'est certain que si ça va bien, je vais en faire. Mais je pense que vraiment, en ce moment, l'emphase est vraiment mise sur bloquer des shots, être bon sur les backchecks, tous des petits détails comme ça que j'avais pas nécessairement dans le junior.
Tu as vécu déjà dans ta jeune carrière professionnelle une soirée magique, là, ta soirée de 3 buts, 2 passes. Il n'en fallait pas plus pour que les gens se déchaînent sur les médias sociaux et réclament que tu sois tout de suite, comment tu veux, rappelé avec le grand club. Comment vis-tu cet aspect-là du fait que le club école est dans le cours du grand club et il n'y a rien qui passe inaperçu? C'est sûr que le public s'emballe rapidement. Fait que toi, à l'intérieur de ça, comment tu vis ça?
Ouais, c'est sûr que c'est une certaine pression. Tu sais, on le sait, les fans à Montréal, c'est des fans très qui prennent ça très à cœur. Puis, je pense que, tu sais, moi, j'essaie de rester focus sur ce que je peux faire de bien. Puis, tu sais, s'il y a avoir un call-up un jour, je vais être prêt. Puis, justement, tu sais, je travaille fort pour que si jamais il y en a, ben, j'aille la meilleure game possible pour pouvoir aider le Canadien à gagner. Puis, en ce moment, je me concentre vraiment sur la requête, puis de continuer à me développer, puis je suis certain qu'en haut, Kent Hughes puis Jeff vont prendre la bonne décision. Là.
Même si tu domines les pointeurs du Rocket, ça a été plus difficile dans les derniers matchs. Et si je ne me trompe pas, je pense que tu as une passe dans les 5 derniers matchs qui ne t'a pas empêché de faire autre chose. Alors, tu sais, de produire avec constance dans cette ligue-là, c'est un défi?
Ouais, c'est sûr. Tu sais, la NHL est reconnue pour être une ligue qui est très dure à faire des points. Fait que, tu sais, moi, l'important pour moi, c'est vraiment de jouer de la bonne façon. Puis, peu importe que j'aille 4 points, 3 points, si je joue pas de la bonne façon, tu sais, je serais pas aussi satisfait. T'sais, mon but, c'est vraiment d'améliorer ma game.
Qu'est-ce que tu as retenu de ton passage au camp d'entraînement cette année où là, tu as joué, contrairement à l'an passé? Mais, tu sais, globalement, comment tu as apprécié ton expérience? Qu'est-ce que tu as retenu de ça quand tu es parti amorcer ta saison dans la Ligue américaine?
Ben, vraiment, c'est super bien de mon camp. Ça a super bien été. Tu sais, j'avais comme but de percer l'alignement, mais écoute, tu sais, c'est pas ça qui est arrivé, puis je comprends ça, puis tu sais, je vais continuer de travailler plus fort. Mais en général, ça a super bien été, puis tu sais, je pense que ça m'a appris que pro, tout peut arriver. Tu sais, je m'en souviens, je parlais à Légaré, justement, à Nathan Légaré. On était ensemble, puis il avait marqué les noms sur le tableau qu'il fallait qu'il rencontre Kent Hughes, puis tout. Fait que tu sais, ça voulait dire que c'était les gars qui sont coupés. Fait que là, j'ai dit à Nate, ça va, on n'est pas coupés, puis tout. Là, il m'a dit, bon, faut t'apprendre que professionnel, faut pas que tu t'attendes à rien. Puis justement, après la pratique de même jour, Rob Ramage est venu me voir puis il m'a dit de passer au bureau. Fait que ça va quand même faire triste.
Fait que effectivement, une journée peut commencer d'une façon, mais elle peut finir d'une autre.
Hein? Ben, c'est ça.
c'est bon. Puis as-tu eu des convertis? Tu sais, quand tu pars là, du camp du Canadien puis vers le Rocket, as-tu eu des meetings juste avec Rob Ramage? C'est avec les gars de développement que la communication se fait ou Ken t'a rencontré, peut-être même le coach Martin Saint-Louis ou.
Ben dans le fond, j'ai eu la rencontre, c'était avec Kent Hughes puis Jeff Gordon. Tu les deux ils étaient super contents de mon camp, puis ils m'ont dit qu'ils continuaient même dans la NHL puis continuaient à me développer, puis en général, c'était vraiment positif. Là.
Toi, t'as-tu osé poser des questions? Tu sais, quand on se fait dire bon mais t'es coupé, tu t'en vas à Laval, est-ce que t'avais envie d'avoir des savoir pourquoi?
Non, pas vraiment, écoute, tu regardes les gars en haut, c'est tous des super de bons joueurs. Fait que faut qu'ils prennent des décisions. Puis je suis certain qu'ils ont pris la bonne décision pour moi. Il y a une raison derrière ça. Puis moi, je suis arrivé à Laval avec la bonne mentalité de vouloir me développer puis de vouloir aider le racket à gagner. Puis jusqu'à présent, ça se passe super bien pour moi. Mais.
Toi, dans ta carrière, là, dans ta vie de hockeyeur, là, c'est quoi ta motivation? T'sais, comme qu'est-ce qui te drive?
Ben honnêtement, c'est vraiment la passion. Depuis que je m'en souviens, j'ai commencé, je sais pas à quel âge, mais j'étais extrêmement jeune, puis j'étais allé à patinoire au parc avec mes frères plus vieux, puis j'ai tout de suite aimé ça. Puis on est une famille d'hockey chez nous, puis c'est vraiment une autre vie, l'hockey. Fait que, tu sais, je sais pas ce que je ferais sans l'hockey. Fait que, tu sais, chaque jour que je vais à l'aréna, je suis heureux, puis je me sens à ma place, là.
Comment t'as de frères déjà, Josh?
J'ai deux frères plus vieux, puis une soeur aussi.
Ça brossait-tu un petit peu en jouant au mini-hockey dans le salon ou dans le sous-sol?
Ouais, c'est dans le sous-sol, on a joué pas mal au hockey. Elmer en bas, il a pas aimé ça. mais oui, ça l'a aidé. T'sais, juste le fait de j'étais le plus jeune, puis j'allais au parc avec mes frères justement, puis une couple de leurs chums, puis t'sais, on jouait des games. T'sais, ça paraît banal, mais t'sais, juste le fait de jouer contre des gars plus vieux, je pense que ça m'a tout de suite appris à travailler fort, puis je pense que ça m'a aidé. Puis mon frère, il a joué midget 3 aussi, fait que je m'en souviens, quand je suis arrivé midget 3, il était là pour me donner des conseils, fait que ça l'a pas nuit à avoir des frères plus vieux.
Ah, je suis convaincu de ça. En terminant, tu dis que tu arrivais au camp du grand club avec l'espoir de faire le club. Bon, ils ont pris une décision autre et t'as quand même un excellent début de saison avec le Rocket. Est-ce que tu t'es mis comme un échéancier? Comment t'approches ça? As-tu envie? Es-tu prêt à être patient? Tu sais, comment vis-tu avec l'attente puis l'espoir d'un jour rejoindre le grand club?
Ouais, je suis très patient. Écoute, je suis bien à Laval en ce moment avec, comme j'ai dit, tu sais, j'ai beaucoup de temps de glace. Fait que pour mon développement, c'est super bon. Puis, je suis certain que Martin, tout le coaching staff, Kent Hughes, toute l'organisation, si on à me rappeler, ça va être dans le bon moment. Puis, tu sais, je leur fais confiance. Puis moi, tu sais, tout ce que je peux faire, c'est travailler fort puis continuer à travailler sur ma game. Puis le reste, c'est pas quelque chose que je contrôle. Fait que, tu sais, j'ai pas trop la tête à ça. Tu sais, j'essaie de pas y penser. Puis juste de profiter du moment à Laval.
Ben c'est bon, t'as l'attitude idéale, t'as la parfaite approche, je pense, pour la situation dans laquelle tu es. Alors, bonne semaine d'entraînement, mon cher Joshua. Merci beaucoup de l'entrevue, puis à bientôt, j'espère.
Yes, un gros merci, c'est gentil.
Merci beaucoup. Na-na-na-na-na-na.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles du sport. Na-na-na-na.
Quelle belle performance des Alouettes samedi contre les Tiger Cats d'Hamilton. Quelle belle ambiance au stade. C'était une journée formidable. Une victoire de 27-12. Un des joueurs qui, encore une fois, s'est illustré pour les Alouettes, à l'image de plusieurs de ses camarades en défensive, Marc-Antoine Decoy, qui est avec nous. Bonsoir, Marc-Antoine.
Salut, Mario.
Un bon feeling samedi?
Ah oui, non, très bon feeling. Tu peux pas être plus heureux que ça. Surtout gagner un match de série éliminatoire à la maison devant la foule et partisans, puis finir un match comme ça, là. C'est très, très heureux.
Raconte-moi un petit peu votre match, là, avant d'embarquer sur le terrain, avant d'y aller de vos premières séquences, avant de sortir là, du coin du stade, là, du casque, là, de la cage. Là, quel était l'état d'esprit de l'équipe?
Écoute, très bon état d'esprit. Toute la semaine, on a un bon état d'esprit. Comme j'avais mentionné, on les avait affrontés la semaine d'avant, puis c'était un match qui voulait rien dire, puis j'ai pas senti que personne n'ait pris ça à légère. Tout le monde a été professionnel cette semaine, puis tout le monde a été motivé cette semaine-là. Fait que je savais que avant d'arriver à la game de samedi, on avait une bonne atmosphère, puis la journée même, écoute, tu sentais même pas que tu le voyais que c'était un match de série éliminatoire, mais la mentalité, c'était juste un autre match, c'est juste une autre semaine, c'est juste un autre coéquipier, on va faire qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Puis cette énergie-là était positive. Écoute, on a vu le résultat, je pense que ça les deux sont entreliés, disons.
Est-ce que ça a été dur sur le terrain? Bon, on regarde ça des gradins, on voit les reprises, mais il reste qu'il y a eu de gros contacts. Hamilton, bien que vous les ayez dominés, quand même, physiquement, c'est une équipe qui est assez dure. Donc, est-ce que ça a été, l'as-tu vécu comme une guerre de tranchées?
Écoute, ça a été définitivement un match excessivement physique, surtout pour notre ligne à l'attaque et notre ligne défensive. Tu sais, nous, notre plan de jeu, c'était d'enlever, surtout de mon côté, à moi en tant que maraudeur, c'était d'enlever les passes profondes, d'enlever les jeux explosifs de Tim White. Fait que j'étais beaucoup plus en couverture, mais énormément de physicalité à l'avant. Puis oui, à chaque fois que tu joues contre Hamilton, ça va être des games physiques, ça va être des grosses games. Tu vas le sentir le lendemain matin. Heureusement, aucune grosse blessure qui était vraiment assez majeure à cette game-là. Donc, là-dessus, je pense que c'est bonne nouvelle pour nous.
Tu as signé une interception également, une autre, celle-là survenue en match éliminatoire. Tu as eu le temps de t'amuser un peu à courir avec le ballon puis écouler des secondes?
Ouais, ben écoute, c'est drôle que tu m'en parles parce que juste avant que le jeu arrive, je regardais le temps puis je me disais, écoute, tu sais, Bolivar, juste pour que le monde comprenne, c'était Matthew Schultz qui était le carrière partant pour la majorité du match, et Bolivar qui est le carrière qui ont payé le gros montant cette année. Il n'a pas joué de la partie à part vers la fin. On savait qu'il embarquait pour prendre des shots pour essayer de lancer des passes profondes. Fait que je savais qu'il allait lancer profond, qu'il allait essayer. Donc, je me dis, si on reçoit une interception, faut qu'on essaie d'écouler le temps, faut qu'on essaie de, sans trop créer de revirement. Mais j'ai eu cette pensée-là, puis après, quand c'est arrivé, vu que j'avais juste eu la pensée, je me suis dit, bon, j'allais m'amuser un peu. J'aurais peut-être pu retourner de l'autre côté par après, mais.
Tu voulais pas pousser la note trop.
C'est ça, j'ai dit, je vais pas trop pousser.
Ben, en tout cas, t'avais l'air d'un gars qui était au courant d'où on était dans le match, puis que c'était important d'écouler des secondes, parce que des fois, dans le feu de l'action, t'es tellement concentré juste à faire ton jeu que c'est des affaires qui peuvent t'échapper, mais clairement, t'étais là. Le sentiment après le match maintenant au sein de l'équipe.
Écoute, c'est un bon sentiment, surtout pour des joueurs que c'est. Ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas eu des matchs de série éliminatoire. Des nouveaux joueurs, c'est leur premier match de série éliminatoire. C'est tellement un beau feeling. C'est tellement quelque chose que t'en profites. Parce que si tu regardes l'historique des Alouettes avant l'année passée, ce n'était pas vraiment une équipe qui allait en série éliminatoire ou qui gagnait en série éliminatoire. Il y a eu des longues années difficiles. Donc, tu prends rien pour acquis. Puis, ce n'est pas facile de gagner un match de série éliminatoire. Donc, tu profites de ce moment-là. Mais la mentalité, c'est la job n'est pas finie. C'est la même situation que l'année passée. On est dans le même scénario. On a joué contre Hamilton à la maison. On les a battus. Là, le focus, c'est vraiment sur Toronto. C'est d'aller finir le travail qu'on n'a pas fini l'année passée.
Ben, je suis vraiment content que tu me dises ça parce que effectivement, je suis content de savoir que vous n'êtes pas allé trop haut après la victoire. Mais je vais quand même en rajouter une couche. Est-ce que le fait de jouer à domicile, de sentir on a atteint le 20 000, au-delà de 20 000 spectateurs samedi, ça a-tu fait une différence pour vous autres?
Ben, je vais te dire, la différence que j'ai pu voir, c'est vraiment à la fin. Je pense que l'énergie, il y a quelque chose, je sais pas si vu que je viens d'ici, pour moi, je suis un peu biaisé sur face à ça, puis j'ai un parti pris, mais j'ai le sentiment qu'il y a une énergie au Stade Pocheval-Molson, puis quand que c'est 20 000 et plus personnes, puis qu'on gagne à la fin, l'énergie qu'il y avait là, c'est dur à expliquer, mais tu te sens, c'est un terme anglais, mais empower par cette énergie-là, ça vient, c'est comme une surcharge qui vient de prendre.
Ça te soulève.
Vraiment. Mais vraiment, 100%. Puis c'est qu'est-ce que j'ai senti avec la foule qu'on avait. C'est incroyable d'avoir ce nombre de personnes-là, surtout pour une journée de novembre, puis il faisait beau comme ça. Donc j'étais très content de voir la foule qui était là. J'étais heureux de voir que les partisans étaient de la place parce qu'on a. On a toujours besoin, surtout d'une game à la maison, tu as besoin d'avoir cet avantage-là, d'avoir de la foule avec toi, qu'il était au rendez-vous, donc on peut juste les remercier.
Et tu l'as dit, Marc-Antoine, t'es un gars d'ici, t'es conscient de tout ce qui entoure les Alouettes, tout ce qu'ils ont traversé. Pour moi, puis sans en mettre trop épais, c'était un match que vous pouviez pas échapper, parce que quand tu essaies de reconquérir un marché puis un public, ben il y a des matchs à gagner, c'en était un samedi. Je sais pas si tes coéquipiers qui viennent de l'extérieur, qui restent pas ici à l'année, étaient conscients de cet aspect-là, mais tu sais. Il fallait gagner ce match-là. Il n'y avait pas d'autre issue.
Non, définitivement. Ce match-là était à nous de le perdre. C'est pour voir ça comme ça. C'était à nous de le perdre. C'est ton dernier match de la saison à la maison. C'est le dernier goût que les fans vont avoir. Donc, c'est super important à ce niveau-là d'aller chercher une victoire parce que quand tu reconstruis une équipe, tu as un nouveau propriétaire, tu as un peu un nouveau marketing des Alouettes. C'est important des victoires comme ça. Donc, écoute. Ça a été tout est bien fini pour ce match-là.
Bon, on s'est assez bercé dans les belles sensations qu'on a tous éprouvées comme joueurs, spectateurs, entraîneurs samedi. Maintenant, on regarde en avant. Les Argonauts de Toronto samedi, c'est le gros club dans l'Est depuis quelques années. Là, il n'y aura pas de public pour vous encourager. Comment se préparer à aller chercher une victoire qui, en principe, là, semble impossible à aller chercher compte tenu que ben Toronto est très difficile à battre à la maison cette année, en tout cas, puis depuis une couple de saisons?
Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien qui est pris pour acquis de notre côté. Il n'y a rien qui est pris à la légère. Ça va être un match difficile. On se ment pas. On sait qu'on s'en va, comme on appelle, un dogfight. On s'en va un combat qui va être difficile. Mais une chose que l'équipe a, c'est en ce moment, c'est qu'il n'y a aucun manque de confiance. Je sens aucunement cette énergie-là de comme, hey, c'est les premiers dans l'Est. Ils ont une meilleure fiche que nous. On les a pas battus. J'ai pas cette énergie-là. Puis c'est qu'est-ce que j'ai expliqué un peu durant la séance. Je dis, c'est important de gagner nos 5 derniers matchs pour créer cette confiance-là, créer ce momentum-là de victoire qui te rend un peu « Hey, tu sais quoi? » On est capable de le faire parce que des fois, tu as besoin d'avoir cette énergie-là. Tu as besoin, surtout dans le football qui est un sport de momentum, tu as besoin de ce momentum-là. Et en ce moment, avec la dernière fois qu'on a joué Toronto et comment qu'on joue en ce moment, c'est différent. On s'est beaucoup amélioré en tant qu'équipe, mais on se ment pas, on sait que c'est un match difficile, fait qu'on est prêt à tout.
Ouais, et je regarde les résultats des matchs cette année, 35-27, ensuite 39-10, ça c'était à Toronto, puis le dernier 23-20 à Montréal, donc clairement là-bas, eux aussi bénéficient du soutien de leur public, leur avantage. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à stopper de l'offensive des Argonauts?
Ben, je pense qu'une des choses que je dois leur donner crédit, c'est dans leur carrière, Chad Kelly. C'est un carrière qui a fait des bonnes lectures cette année, mais c'est un carrière qui reste dans la pochette et qui va prendre les coups. Des fois, si tu regardes certains carrières, qu'est-ce qu'on appelle, vont voir des fantômes, la pression ou la pochette va se fermer sur eux, mais personne nécessairement étant proche d'eux, puis ils vont commencer à sortir. Mais des fois, rester puis prendre ces quelques secondes de plus-là pour lancer le ballon, c'est qu'est-ce qui fait que les receveurs sont verts. Puis Chad Kelly était excellent là-dedans. Je pense que ils ont un bon caractère offensif. C'est une équipe qui est bien coachée, mais ils ont deux pièces importantes, surtout avec AJ Lloyd, leur porteur de ballon, puis Chad Kelly, leur carrière. Donc, c'est ça qu'on veut. Écoute, si tu veux gagner la Coupe V, il faut que tu joues contre les meilleurs. Il faut que tu essayes d'aller contre les meilleurs. On se considère les meilleurs, mais il faut aller le prouver samedi prochain.
Merci beaucoup, Marc-Antoine.
Ça fait un grand plaisir. Merci à toi, Mario.
Bonne semaine de préparation. Bye-bye. Marc-Antoine Decouet, des Alouettes de Montréal. Le match sur nos ondes, bien sûr, samedi prochain, avec l'avant-match à 14h en direct de Toronto pour la finale de l'Est.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.